Tancrède Martel, les dieux se vengent. Grâce aux sublimes indiscrétions d'Homère, nous savons tous que le plus spirituel et le plus rusé des Grecs, Ulysse, roi d'Éthaque, fut pendant au moins une année l'amant de Circé, fille du soleil, magicienne et reine de l'île d'Aéa. Les compagnons d'Ulysse, redevenus hommes après leur métamorphose en animaux, firent sans doute une heureuse cour aux suivantes, camériste, brodeuse, et même aux simples pastours de Circé, pendant que leur maître trahissait sa chaste épouse Pénélope au profit d'une jeteuse de sarre et verseuse de filtre. Mais on ignore, ou à peu près, qu'un des matelots du roi d'Ithaque conserva jusqu'à sa mort, et aussi par sa faute, la forme peu enviable de pourceau. Il se nommait Lycopinax, le lécheur de plats. Et il remplissait, dans une métairie royale, l'humble fonction de presseur d'olives. Mais son intelligence ne put atteindre aux emplois supérieurs, ceux de bouvier ou d'aide des chansons. Et au moment de s'embarquer pour Troie, Ulysse l'aperçut qui ronflait sous un pin. Le roi tenait à conduire auprès d'Agamemnon un effectif de combattants aussi imposant que possible. D'esprit faible et de peu de valeur militaire, Lycopinax n'en fut pas moins inscrit sur les listes de l'armée. On l'affecta d'ailleurs à cette médiocre recrue à la flotte. Entendez par là à la garde des galères en compagnie des calfas et des vivandières. Et pendant que les Grecs se couraient de gloire autour de Troie et dans la ville, Lycopinax buvait du vin au miel, mangeait des figues sèches à bord d'une birème et passait le reste de son temps à dormir. Ilion prise, Hélène rendue à Ménélas, les comptes réglés, Ulysse partit pour Ithaque, emmenant tout de suite et tout de même ce fainéant. Le lécheur de plats assista donc aux aventures de terre et de mer. Cyclope par-ci, le strigeon par-là, et il fut l'un des 40 survivants qui débarquèrent en l'île où régnait Circé, la rayonnante. Et à son tour, il se vit remplacer sa tête et sa peau par un groin et des soies, en conservant le don des larmes et la pensée d'un homme. Mais l'enchantement agit sur lui avec mollesse. Frappé le dernier par la fatale baguette, au lieu d'être muet en pourceau adulte, Lycopinax débuta comme cochon de lait. Il pleura sur sa destinée, grogna autant que les autres guerriers, et il partagea leur infecte, abjecte nourriture et fut, comme eux, enfermé dans la pancherie. Mais le jour où le charme cessa, grâce à la salutaire plante maudite, cadeau de Mercure à Ulysse, lorsque les compagnons, le roi en tête, allèrent banqueter et boire le vin délectable en l'éblouissant palais de la nymphe, le stupide Ligodonax, ayant mangé double pâté, dormait encore sur son fumier au fond de l'immonde repaire. Et n'ayant point encore répondu à l'appel de son nom, il demeura un vulgaire habillé de soie, comme le dit le peuple des champs. La nuit venue, l'intendant et le portier éteignirent les lumières du palais royal d'Aéa. Quand tout dormit dans l'île, l'ancien presseur d'olives se réveilla en sursaut et comprit son malheur. Il quitta la porcherie dont l'issue est libre, personne ne soupçonnant sa présence d'un traînard. Et incapable d'analyse, dépourvu de sens critique, peu porté à la psychologie, l'involontaire pachyderme crut au massacre ou à la fuite d'Ulysse. Et de ses 44 compagnons. Alors vite il s'éloigna des lieux tragiques et en maudissant son roi, plus encore que Circé, il alla se coucher derrière un rocher au bord de la mer. Le glouton soupirait après les figues, l'agneau rôti, les fromages d'Ithaque, tout en regardant se lever chaque jour l'aurore aux doigts de rose. Et au loin, sur les flots, Ulysse et sa troupe le croyaient mort ou noyé, le chercheur de plats, cette non-valeur. Heureusement pour Lycopinax, le sol de l'île abondait en chêne. Il put donc se gorger de glands, grandir, grossir, et finalement devenir pourceau, sans que jamais l'intendant et chef des métairies, un homme âgé et dépourvu de zèle, eut l'idée de porter ses pas de ce côté. Le solitaire lui écumait de rage. La patrie ne sortait plus de sa pensée, tant la terre natale exerce son prestige même sur les plus minces intellects. Cet exil entre la roche et la mer lui devint à la longue insupportable. Dans les premiers jours du mois Brélomion, c'est-à-dire en septembre, il rôdait aux environs du palais, au risque d'être capturé par les cuisiniers de la déesse. Et il entendit de nouveau chanter à pleine voix l'enchanteresse, pendant que, assise sur son trône d'or cloué d'argent, elle tissait sa grande toile à prendre les hommes. Il s'extasia des merveilleuses habitations en pierre polie, regarda les servantes aller et venir, le vénérable intendant à barbe blanche et fluviale donnait des ordres en agitant son bâton. Tout ce monde était heureux, oui, certes, mais rien ne valait le royaume d'Ulysse. Lycopinax sanglotait, grognait plus fort que l'ordinaire, si bien qu'il attira l'attention d'un jeune esclave passant par là, porteur d'une amphore. L'éphèbe, étonné de voir un tel animal vagabonder auprès de l'auguste demeure, courut en avertir l'intendant, et peu après, sur l'ordre de Circé, l'imprudent pourceau, dûment nettoyé, décrassé, parfumé de verveine, comparaissait devant elle. Depuis longtemps, il s'était parti, abandonnant pour toujours la charmeresse de l'île d'Ea, parti pour de nouvelles aventures, parti pour recevoir de Pénélope et les lui rendre des baisers conjugaux. Et cette idée torturait le cœur de Circé. Ah, si l'ordre des dieux n'avait pas été absolu, comme elle aurait gardé auprès d'elle son Ulysse, car il l'aurait aimé, il savait le faire, celui-là. Nul des naufragés que touchait sa baguette n'égala jamais, aux heures d'amour, le robuste guerrier revenu de Troie. Elle ne cessait de penser à lui, évoquant ses moindres mots et ses attitudes, soupirant après les délices dont il l'avait rassasié, les dernières caresses qu'il lui prodigua à l'aspect de Leucophrynax, Circé reconnut que c'était un pourceau ou un compagnon de son ancien amant. Hoplite ou rameur, échappé par hasard à la réincarnation humaine. Mais celui-ci me parlera de l'absent, songea l'immortel enfant du soleil. Et le congédia d'un regard, serviteur de servante, et puis elle prit la magique baguette. Elle effleura le groin de l'infortuné, et Circé prononça ces paroles. « Je te rends ta voix et ton langage d'homme. Pour le reste, je ne te promets rien, tout dépend de toi. Grâce vous soit rendue, ô déesse !» s'exclama l'errant. Mais ne laissez point inachevée votre œuvre. Accordez le pauvre Lupinax de reprendre sa première forme. Faites équiper une galère pour le ramener en Ithaque. Et vous restituerez ainsi à la Grèce un de ses plus illustres soldats. Soldats, dis-tu? Et quel était ton rang, ta dignité dans l'armée du vaillant Ulysse et sur le navire qui te conduisit à ma douce Aéa? Ce que je fus devant Ilion, princesse, mais je fus l'hipparque de mon roi, le commandant de cavalerie, et même son plus intime confident. Circé sourit de pitié. Ulysse, au grand cœur, n'aurait jamais quitté l'île en y oubliant un ami intime. Il était évident que le lécheur de plats se vautrait en plein dans l'hyperbole. Tu mens! Tu t'étourdis de fables, dit-elle. Je ne serais point grec sans cela. Mais tu as eu l'honneur de servir mon cher Ulysse. Et alors, à ce titre, tu m'es presque sacré. Compte-moi, oui, compte-moi, vite, Loubinax, ce que tu sais de ce héros. Comment vivait-il dans Ithaque? Comment vivait-il dans Ithaque? Ce sujet l'aimait, n'est-ce pas? Et d'abord, dis-moi, parle-moi de son royaume. Quel fleuve l'arrose? Combien de vaisseaux dans les ports et dans les villes? Combien de palais? Nigobinax leva la patte dans le fallacieux espoir de se gratter l'oreille droite, ce que représentait pour lui le comble de l'embarras. Autant ou jamais envolé, il cueillait l'olive et voguait sur les vastes mers. Mais il ne put hélas y parvenir. La déesse éclata de rire. Au fond, comme toutes les magiciennes, oh, je veux dire toutes les femmes, elle possédait son côté faible. N'ayant pas sous la main qu'un seul compagnon d'Ulysse, elle voulut le ménager. Je vois ce dont il s'agit. Tu crains d'affliger mon esprit du peu d'éclat de tes paroles. Mais peut-être ignores-tu, captif, les rythmes, la splendeur, la musique, l'intelligence, l'éloquence des mots anciens. Me parle quand même. La fille des dieux comprend tout. Le pourceau, subitement rassuré, obéit non sans bravoure. Et ce jour-là, durant 3 longues heures, il entretint Circé, des olives, de l'huile, des campagnes, de la cité et du port d'Ithaque, parla des guerriers, leurs plus belles cnémides, mêlant à tout cela l'histoire de ses querelles personnelles avec le vieil Eumée, berger en chef du domaine royal, et le chien Argos, qui le mordait tous les jours aux jambes, affirmait-il. Un copieux repas, composé de grenouilles et de glands exquis, récompensa la verve chaotique du narrateur. Le second jour, il raconta le siège de Troie, vu du fond d'une barque, et la reine condescendit jusqu'à frissonner. Le troisième jour, il parla d'Ulysse, mais sans nul enthousiasme. Pourtant, Circé but ses paroles jusqu'au bout. Le quatrième jour, dès que les gardes eurent introduit l'animal auprès de la déesse, Circé, un peu nerveuse, lui jeta ces rapides paroles. Oh, je suis presque décidé à te rendre la forme humaine. Mais tu me dois encore une confidence, une confidence. Et elle ajouta, avec infiniment de câlinerie et de grâce, parle-moi un peu de Pénélope, la femme d'Ulysse, veux-tu? De la reine d'Ithaque, princesse? Oui, d'elle-même. Mais tu répètes mes questions comme la bavarde l'inféco. Dis-moi tout librement, mon ami. Je te le permets. Voyons, Pénélope, est-elle vraiment jolie? De quelle couleur sont ses yeux? S'habille-t-elle avec grâce, goût? Mange-t-elle avec noblesse? Ses cheveux sont-ils comparables aux miens? Et disant cela, Circé secouait la blonde toison qui recouvrait ses divines épaules. Lygopinax se souvint que maintes fois Pénélope lui évita des reproches, des coups de bâton. Aussi clama-t-il avec enthousiasme et allégresse. Pénélope est d'une beauté incomparable. Je n'ai rien vu de semblable sous le soleil. C'est elle, et non cette petite mijaurée d'Hélène que Paris aurait dû enlever. Oh, je m'étonne que le roi Ulysse, son époux, ait préféré n'importe quelle autre femme à cette splendide créature vivante, statue vivante. Imbécile, s'écria la déesse, courroucé et bondissant sous l'outrage. N'importe quelle autre femme misérable, avorton, poussière de quai. Tu n'as donc pas regardé? Et frappant un disque d'or de sa baguette, Circé appelait. Avec moi, Myrdès, Myrdacos, Myrdès, et toi, venez tous, voici un pourceau, lourd de graisse et de lard, qu'il faut de suite égorger, écorcher, démembrer, pour vous régaler et faire de grillades. Ainsi, bourru d'une mort sans gloire, Lycopinax, compagnon d'Ulysse, pour avoir trop aimé son ventre, trop dormi à l'heure du suprême appel, et méconnu l'orgueil et l'amour-propre des cœurs féminins. Les dieux se vengent.